France Culture. France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite ce matin de notre série sur Frantz Fanon, penseur majeur de la colonisation. Notre épisode d'aujourd'hui s'intitule « Naît-on noir ou le devient-on ?» Notre titre fait un clin d'œil au deuxième sexe de Simone de Beauvoir, celle-ci y déclarant qu'on ne naît pas femme mais qu'on le devient. Fanon était marqué par l'existentialisme de Sartre et de Beauvoir, même s'il ne l'a pas cité elle. Avec Sartre, en tout cas, il a eu des discussions qu'il a jugées majeures. Et pour Fanon comme pour Sartre, il existe quelque chose comme une liberté première de l'individu, hélas, très facilement entamée, menacée par le regard qu'autrui porte sur lui. Être noir, n'est-ce que l'état d'une oppression ou est-ce autre chose encore d'antérieur à l'oppression coloniale et ou esclavagiste et susceptible de survivre fondamentalement à cette oppression? Est-ce quelque chose comme une identité éternelle et pour toujours décisive? Cette question hante Fanon depuis son livre « Peau noire, masque blanc » de 1952, mais elle se retrouve aussi, certes d'une autre façon puisqu'on parle là de population maghrébine, dans son texte de 1959, l'an 5 de la Révolution algérienne. Enfin, cette question se reformule encore dans son fameux livre « Les damnés de la terre » publié quelques jours avant sa mort en 1961, car Fanon fut fauché à 36 ans par une leucémie. Derrière cette interrogation, il y a aussi à l'évidence la figure d'Aimé Césaire, qui fut son professeur de philosophie à Fort-de-France et qui a forgé le concept de négritude. Il n'est pas à exclure que Fanon ait développé une ambivalence profonde, irrémédiable à l'égard de toutes ces figures, celle de Césaire comme celle de Sartre. Et dans ce cas, le situer par rapport à elle sera très délicat. C'est l'enjeu de notre émission de ce matin. Bonjour Michaël Provost.
Bonjour.
Vous êtes docteur en philosophie de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié au PUF en 2023 un ouvrage issu de votre thèse, ouvrage intitulé « L'expérience de l'oppression, une phénoménologie du sexisme et du racisme ». Et bonjour Ouria Bentouami.
Bonjour.
Vous êtes en duplex avec nous depuis Toulouse. Merci aux équipes de Ici Occitanie. Vous êtes Ouria Bentouami, professeur de philosophie sociale et politique à l'Université de Toulouse. Vous avez travaillé sur la pensée féministe et sur la pensée décoloniale. Je cite en particulier un article de vous sur Frantz Fanon, intitulé « L'emprise du corps, Fanon à l'aune de la phénoménologie de Merleau-Ponty ». C'est un article paru dans les Cahiers philosophiques en 2014. Alors permettez-moi toutes les deux d'introduire notre discussion en repartant d'Aimé Césaire et de son concept de négritude. Vous allez entendre un premier extrait sonore de Césaire qui souligne combien ce concept est ce qu'on appelle parfois un renversement du stigmate, c'est-à-dire que le mot négritude permet d'afficher haut et fort toute la honte pleine d'oppression qui est attachée à l'individu noir dans le regard de ceux qui l'ont si longtemps appelé nègre. Aimé Césaire est ici invité au Cercle de Minuit en 1994 sur France 2. Il répond à Michel Field qui l'interroge sur la radicalité de ce mot négritude.
Vous avez le sentiment donc que la négritude est un concept plus radical?
Plus radical et plus large et plus généreux. Et plus généreux et qui comporte, qui souligne une fidélité et un devoir de mémoire. Combien d'Antillais j'ai connu en France quand je suis arrivé qui avaient honte de se dire Antillais, Martiniquais ou Guadeloupéens? Combien d'entre eux avaient encore honte de l'Afrique et qui se disaient sud-américains? Oui, ils étaient prêts à être créoles, mais ils ne revendiquaient pas du tout la qualité africaine. Non. Eh bien, c'est parce que cet aspect de l'héritage, parce que négligé, parce que avili, parce que déprécié, c'est celui-là que j'ai revendiqué. Et c'est pour cela. S'il m'avait été autrement, certainement j'aurais fait autre chose. Mais il y avait ça, et il fallait rétablir une vérité historique. Ils connaissaient plus rien de l'Afrique. C'est incroyable. Alors, quand j'ai rencontré Senghor, il m'a apporté une confirmation. Tout ce malaise que je ressentais confusément dans la société martiniquaise, dans les salons, parmi mes camarades, au lycée, et où il y avait tant de métis, de blancs, pas du tout, je suis pas du tout contre ça. En fait, c'est un mal-être que je ressentais. Je ne savais pas très bien la cause. Et puis avec Senghor, j'ai compris. C'est qu'en réalité, j'avais confusément compris et senti, comme peuvent le faire les enfants, que nous étions dans un monde de fausses valeurs. Et elles étaient fausses. Et tout simplement, nous avions hérité des valeurs qu'avaient été inventées à l'usage des colonies par la classe dominante.
Il y a un point complexe ici, me semble-t-il, dans la pensée d'Aimé Césaire. Et j'aimerais qu'on en parle avec mes deux invités en abordant ensuite Fanon. D'un côté, quand il construit ce mot négritude, et c'est le mot d'un poète plus que d'un théoricien, Aimé Césaire rapporte l'essentiel des enjeux pour les Noirs du monde entier à l'Afrique, il vient de le dire. Et ce, même s'il s'agit de Noirs ou de Métis venant comme lui de la Caraïbe. Il y a une solidarité avec l'Afrique, terre opprimée, cœur de l'oppression des Noirs. Mais d'un autre côté, Césaire refuse toute substantialisation ou identité éternelle des Noirs liée notamment à une racine africaine. Négritude, c'est le nom d'une oppression, pas d'une identité, pas d'une substance. Il l'a volontiers dit, je le cite, il n'y a pas de négritude prédéterminée, il n'y a pas de substance, il y a une histoire et une histoire bien vivante. Je suis, ajoute-t-il dans d'autres passages, pour la négritude d'un point de vue littéraire et comme éthique personnelle, mais je suis contre une idéologie fondée sur la négritude. Il n'y a pas de permanence biologique, dit-il encore, dans d'autres entretiens. Et d'ailleurs, cela lui a été un peu reproché ces dernières décennies par des pensées désireuses d'affirmer plus d'identité substantielle et culturelle concernant les Noirs. Alors, je voudrais pour cela qu'on entende encore une fois Césaire et ensuite nous allons discuter. Il s'agit d'une intervention sur RFO en 1991.
Être nègre n'a jamais été... a toujours été assez... C'est une chose quand même qui était quand même révolutionnaire. Jusqu'à présent, je me rends bien compte. Et à mon avis, la recherche, grosso modo, hein, je simplifie, la recherche de l'identité ne peut pas aller sur la négritude. On ne peut pas comprendre le peuple martiniquais, on ne peut pas comprendre son folklore, sa danse, sans des références africaines. On avait toujours fait honte aux nègres d'être nègres, et les nègres avaient fini par avoir honte d'être nègres. Ça a l'air très simple, il y a une sorte de pudeur à dire cela, mais c'est ça la vérité. Et c'est cela qui avait été complètement perdu de vue à la Martinique, tout simplement parce que la référence à l'Afrique, c'était la référence à la barbarie. Mais, en réalité, le combat n'est jamais entièrement gagné. Il n'est jamais entièrement gagné. Par exemple, à l'heure actuelle, vous voyez bien, les jeunes écrivains, ils se revendiquent de quoi? Ils se revendiquent de la créolité.
C'est ça,
oui. Bon, ben, ça me fait un petit peu sourire. C'est une tentative, peut-être inconsciente, de certains Martiniquais, de se désolidariser d'un passé africain que le peuple martiniquais n'a jamais vraiment, pleinement assumé. Et je ne veux pas, moi, abandonner l'Afrique juste au moment où, de par le monde, il y a une telle tentative de dénigrement de l'Afrique et où l'afro-pessimisme gagne de plus en plus. Et puis moralement, éthiquement, je ne veux pas me désolidariser de Martin Luther King ou de Nelson Mandela.
Michael Provost, c'est donc assez complexe ce concept de négritude. C'est vraiment le nom de l'oppression. Je suis de la race de ceux qu'on opprime, dit-il souvent, Césaire. Faites des nègres un peuple de vainqueurs. Je crois, quant à moi, qu'il n'y aurait pas du tout de négritude. Il l'a écrit dans Tropique, sa revue. Cette complexité, pourriez-vous en parler, Michael Provost? Pourriez-vous aussi nous dire si elle est embrassée de la même façon par Frantz Fanon?
Oui, c'est assez complexe parce qu'en fait, Césaire donc revendique une identité noire qui permet de porter une voix, de ne plus être seulement un objet du discours raciste. Donc il y a une volonté de réappropriation en fait aussi de l'insulte, hein, donc avec le mot négritude, donc de renversement complet du stigmate. Et en même temps, chez Césaire, il y a cet effort pour ne pas revenir à une identité qui serait essentialisée,
oui.
Qui serait, voilà, qui renverrait à une forme de passé ou à un esprit africain, donc à une essence. Et en ce sens, Césaire n'est pas Senghor. Et du coup, Fanon est quand même plus proche de la pensée de Césaire que de celle de Senghor qu'il va critiquer, en fait, dans Peau noire, masque blanc, parce que justement, chez Césaire, il y a cet effort pour penser la négritude aussi comme un devenir. Donc pas seulement la ramener, en fait, à un passé essentialisé ou à une identité qui serait liée à des traditions africaines ou à un esprit passé, mais vraiment pour l'inscrire aussi dans une trajectoire existentielle, l'inscrire dans un devenir, et donc...
dans une émancipation possible.
Oui, dans une émancipation possible. Et chez Fanon, en fait, Fanon trouve chez Césaire une pensée plus compatible avec son ancrage existentialiste, sa notion du devenir et la possibilité d'une auto-création, d'une invention de soi, donc de faire de la négritude aussi le point de départ d'un processus de transformation subjective.
Vous êtes d'accord, Ouria Ben-Twamy, chez Césaire et donc peut-être aussi chez Fanon, on va y revenir, la négritude, c'est un devenir, ça peut se dépasser et effectivement, ça suggère que ce sera dépassé dans un mouvement d'émancipation. Il faut pas mal prendre cette expression. C'est le nom de l'oppression, donc c'est normal qu'on puisse souhaiter le dépassement. Est-ce que vous avez cette même analyse ?
Alors, oui, tout à fait, mais à une chose près tout de même, et qui a été rappelée dans le dernier extrait qu'on vient d'écouter, à savoir que quand même, il insiste beaucoup sur cette idée qui est historiquement ancrée, notamment dans les sociétés caribéennes, antillaises, de cette désolidarisation avec l'Afrique. Et la négritude a aussi pour but de dire, attention, interrogeons quand même cette inclination que nous avons, dit-il, en tant qu'antillais et antillaise, à ne pas être africain, absolument cet acharnement, cet entêtement à vouloir se désolidariser de l'Afrique. Qu'y a-t-il derrière ? Et c'est assez intéressant parce que la négritude a justement pour vocation d'interroger ce rapport à l'Afrique comme un rapport à soi troublé, qui est lui-même marqué par un rapport social très spécifique, qui est celui à la fois de la colonisation, bien sûr, mais également, et ça c'est fondamental, je pense, par l'esclavage. C'est-à-dire que l'Afrique aussi est considéré comme du commerce triangulaire, etc., la scène matricielle dans laquelle s'est joué justement le vol des futurs esclaves. Donc il y a cette dimension-là quand même d'une écriture comme un rappel comme ça, mnémotechnique. N'oublions pas quand même aussi que cette détestation du noir en soi et du noir africain a une histoire. Et il faut rappeler cette histoire-là. Donc on ne peut penser le devenir, on ne peut penser l'après de l'oppression d'une certaine manière, même s'il n'y a pas un grand moment de libération, qu'à partir, vraiment d'une manière saine, j'allais dire, à partir de cette histoire.
Donc oui, l'Afrique, c'est à prendre en compte à l'intérieur même du concept de négritude, vous venez de le rappeler. Et en même temps, vous êtes d'accord, Ouria Ben-Twamy, pour dire que pour Césaire, c'est pas une Afrique avec une... disons, une culture traditionnelle sédimentée, c'est pas une substance, c'est pas un substrat, disons, indépassable, éternel, c'est le fait que l'Afrique est le lieu de l'oppression, c'est ça. L'oppression des
oui,
Noirs.
Oui, tout à fait.
L'Afrique a été spoliée, l'Afrique a été pillée, l'Afrique a conduit à des crimes terribles contre les Africains, etc. C'est ça?
Oui, tout à fait. Et sa culture aussi a également été falsifiée. Cette dimension-là, je pense, est importante pour Césaire, puisque, comme on le disait, c'est un mouvement aussi, la négritude, un mouvement aussi dans le domaine culturel, de réaffirmation de soi, de sa culture, etc. Et il faut, du coup, prendre en compte aussi cette dimension-là qui de fétichisation, par exemple, oui. L'Afrique via ses objets, ses pratiques culturelles. Donc, il ne s'agit pas tellement, vous avez tout à fait raison, de revenir à une espèce d'antécédence, à une espèce d'archaïsme qui précède, en tout cas pour Césaire, hein, ça c'est important, oui. Qui précéderait effectivement la colonisation, mais de voir précisément qu'est-ce qui, dans cette culture, résiste à la colonisation, résiste aux discours racistes et aux pratiques racistes.
En tout cas, refus pour Césaire de tout essentialisme et de tout identitarisme, qui est une expression qu'on emploie davantage aujourd'hui. On est bien d'accord, Ouria Ben-Twamy,
oui,
pour Césaire.
Oui, tout à fait.
Alors Michel Provost, on va maintenant entendre Fanon. C'est vrai que Fanon, on va lire d'autres textes, a aussi une certaine notamment à la fin de sa très courte trajectoire. On va entendre son intervention au Congrès des écrivains et artistes noirs de 1956. Il se méfie aussi d'un discours sur les traditions éternelles de l'Afrique, etc. L'Afrique, c'est le lieu de l'oppression, pas le lieu d'une culture identitaire. Écoutez Fanon, donc, en 1956.
La culture encapsulée, végétative, depuis la domination étrangère, est revalorisée. Elle n'est pas repensée, reprise, dynamisée de l'intérieur, elle est clamée. Et cette revalorisation d'emblée, non structurée, verbale, recouvre des attitudes hautement paradoxales. C'est à ce moment qu'il est fait mention du caractère indécrottable des infériorisés. Les médecins arabes dorment par terre, crachent n'importe où. Les intellectuels noirs consultent le sorcier avant de prendre une décision, etc. Les intellectuels collaborateurs cherchent à justifier leur nouvelle attitude. Les coutumes, traditions, croyances, autrefois niées et passées sous silence, sont violemment valorisées et affirmées. La tradition n'est plus ironisée par le groupe ne se fuit plus, on retrouve le sens du passé, le culte des ancêtres. Le passé, désormais constellation de valeurs, s'identifie à la vérité.
On a l'impression, Michael Provost, que Fanon dit là, n'oublions pas que c'est le dominant, le dominateur, le colonisateur qui a essentialisé l'Afrique, qui a biologisé l'état d'être noir, africain, ou d'être arabe, africain, etc. Et que répondre à cela par « oui, oui, il y a une essence traditionnelle, etc. », c'est rentrer dans le piège. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette lecture ?
Oui, c'est assez complexe, en fait. Donc, il admire quand même les textes de la négritude, il admire beaucoup Césaire. Voilà, avec Senghor, c'est un rapport plus compliqué, il le critique de façon plus forte dans « Peau noire, masque blanc ». Ce qu'il critique, ce serait une tendance, en fait, à se laisser, comme il le dit, enfermer dans la tour substantialisée du passé. Donc, voilà, à revenir à des traditions, à un esprit africain qui reviendrait à une identité essentielle et qui porterait moins la focale, en fait, sur les rapports de force, sur les rapports d'exploitation et donc sur les bases matérielles de l'oppression. Mais donc néanmoins, il admire tous ses écrits. Voilà, il pointe simplement un risque et peut-être une dimension qui tendrait à minimiser en fait l'historicité aussi des rapports de pouvoir, l'historicité donc de l'histoire de la colonisation et de l'exploitation. Et c'est en ce sens que après 52, donc là dans le discours qu'on vient d'entendre en 56, il insiste vraiment davantage sur cette dimension matérialiste et sur le fait que le racisme, comme il le dit, n'est pas un trait fondamental de l'esprit humain. Donc il n'y a pas, ce n'est pas une structure anhistorique. Ça doit être réinscrit dans une histoire, dans une épaisseur en fait temporelle.
Alors, je voudrais que vous alliez au bout de ce que vous avez dit à deux reprises d'ailleurs sur Senghor, Léopold Sédar Senghor, qui a quelques années de plus que Césaire. Il est né en 1906, Césaire en 1913. Ils se sont connus à Paris, au lycée Louis le Grand, dans les années 1930. Il y a toujours eu une sympathie entre les deux, mais ce que vous dites, Michael Provost, est-ce que Senghor, en plus il va devenir président, le premier président du Sénégal, est-ce que ça va conduire à... Lui, il va un peu essentialiser la négritude, en faire une sorte d'identité africaine profonde, et ça n'est pas du Césaire. Et, ajouterais-je, ce n'est pas du Fanon. Est-ce que Fanon aussi a critiqué Senghor, même s'il n'a pas connu, puisqu'il est mort en 61, le moment d'accès au pouvoir de Senghor?
Oui, dans Peau noire, masque blanc, Fanon en fait une critique quand même assez forte. Il souligne que... voilà, sa peau noire n'est pas dépositaire de valeurs spécifiques, donc il est très méfiant à l'égard d'une forme d'essentialisation de l'identité noire, même si, bien sûr, il reconnaît une forme d'héritage et que par ailleurs, voilà, il admire ces textes-là. Enfin, il vient quand même de ces lectures très importantes de la négritude. mais il pointe ce risque de faire de l'identité noire une sorte de donnée qui serait en quelque sorte séparée d'une analyse des conditions matérielles qui ont conduit en fait
à l'histoire, comme dit Césaire. Voilà. C'est de l'histoire, c'est pas de l'essence.
Voilà.
C'est de l'histoire, ça se construit, ça se défait. Ouria Ben Toimi, bon, Césaire, il est aujourd'hui, il est un petit peu critiqué pour ça, hein, parce qu'il y a d'autres voix qui ont très envie, au contraire, disons, on mette plus de substances culturelles dans l'approche de certaines conditions d'être noir. Je pense en particulier au livre de Jean Bernabé, Patrick Chamoiseau, Raphaël Confiant, Éloge de la créolité, en 1989, qui pense que la créolité fait davantage de place à quelque chose comme des identités culturelles plus substantielles. C'est très difficile de faire répondre ça. Enfin, nous, aujourd'hui, il est mort plus de 26 ans avant l'existence même de ce livre. Mais il y a une tonalité chez Fanon qui est plus Césaire que créolité contemporaine, diriez-vous ?
Ah, il y a même une critique, on peut dire ça comme ça, des créolismes, comme il dit, comme il l'appelle. En fait, c'est aussi ambivalent. Et ça, c'est toujours intéressant parce que Michael l'a rappelé, il y a beaucoup de complexité chez Fanon, et notamment le rapport, encore une fois, colonial, le rapport à soi colonial est complexe. Alors, sur la question de la créolité, dans Peau noire, masque blanc, notamment à propos du langage, il montre comment, en fait, les personnes, donc qu'il appelle les débarqués, en fait, ce sont, disons, les migrantes et les migrants, martiniquais en France, qui tout à d'un coup, dit-il, eh bien, se mettent à ne plus connaître le créole et qui se vantent de ne plus connaître le créole. C'est assez, d'ailleurs, des passages assez humoristiques. Il y a quand même pas mal de passages comme ça chez Fanon qui sont assez ironiques. Donc, ils oublient, ils perdent le créole dans une dimension, justement, de revêtir un masque blanc par le langage, c'est-à-dire de devenir complètement français, assimilé, de se désolidariser, encore une fois, de cette histoire, y compris familiale, créole. Mais qui est le fait, dit-il, de la bourgeoisie créole. Et ça, c'est fondamental. Il dit la bourgeoisie antillaise refuse la créolité, refuse le créole. Donc, lui, d'une certaine façon, aurait plutôt tendance à dire que il faudrait valoriser, au contraire, effectivement, cette langue. Mais d'un autre côté, d'un point de vue politique. La créolité politique, elle, il est assez effectivement distant de ça parce que tout simplement, ça c'est ce qu'on verra peut-être plus tard avec les damnés de la terre, etc. Il a une dimension plus panafricaine. Et cette dimension panafricaine, elle consiste précisément à lire la condition de l'oppression noire en fonction des circulations et finalement aussi d'un certain sort commun qui est celui effectivement notamment des peuples colonisés en Afrique. Donc vous voyez, il y a quand même cette ambivalence là.
Cette ambivalence, et encore une fois, panafricanisme sans identité essentielle ou substantielle. Donc c'est très complexe. Alors maintenant, je voudrais aborder le problème du rapport de Fanon à Sartre, parce que en plus, il y a un rapport de Sartre à Césaire, donc tout ça, c'est un peu des poupées russes, hein, ça s'emboîte. Sartre a souvent dit, à propos des Juifs, notamment, mais finalement à propos de quiconque, que le regard d'autrui a tendance à nous chosifier, il nous transcende, c'est dans L'être et le néant, en 1943, je cite... On se sent transcendé par la transcendance d'autrui et ça engloutit en moi ma propre transcendance, dit-il. Il y a une menace que constitue autrui. Donc c'est le regard d'autrui qui nous chosifie, qui crée le juif, le noir dans ce qu'il a de chosifié. Et donc c'est vrai que pour Sartre, il n'y a pas d'identité. Ce qu'il faut retrouver, c'est la non-identité, c'est l'identité a été imposée de l'extérieur, Michael Provost. Est-ce que Fanon va jusque-là ? Est-ce que finalement, il n'y a pas d'identité noire, ce n'est qu'un construit ? Et il faut lutter contre ce construit.
Alors, les réflexions de Sartre sur la question juive, donc en 1946, ont été très importantes pour Fanon, mais en fait, Fanon déplace l'analyse en disant que le juif peut être ignoré dans sa juiverie, Mais dans le cas du racisme anti-noir, en fait, qu'il étudie dans Peau noire, masque blanc, il y a une forme d'épidermisation, c'est-à-dire que la couleur de peau, la peau noire, est chargée de manifester la race. Et devient en fait quelque chose qui le fixe, comme il le dit, dans l'apparaître. Donc il y a ce déplacement majeur par rapport aux analyses sartriennes. Et en fait, la question donc est moins, peut-être moins celle de la construction de l'identité que de la manière dont la race en fait se donne à penser comme une construction, comme une fiction dans Peau noire, masque blanc, qui informe les rapports aux autres, qui informe notre inconscient, nos désirs, nos fantasmes, nos peurs, etc. Puisque Peau noire, masque blanc est aussi très inspiré par la psychanalyse et des études psychologiques. Donc voilà, il y a ce déplacement par
rapport...
C'est
assez sartrien comme texte. C'est-à-dire qu'on est, on est noir dans le regard de l'autre, d'abord et avant tout. Vous avez même dit, de ce point de vue-là, en tout cas à ce moment de l'itinéraire de Fanon en 1952... La race est une fiction et une oppression. Vous êtes d'accord, Ouria Bentouami? Après, je vais justement vous proposer une lecture où c'est très clair, en tout cas dans Peau noire, masque blanc, d'un texte de Fanon. Mais je voudrais déjà que vous réagissiez au problème lui-même.
Oui, tout à fait. Il dit, par exemple, cette chose quand même fondamentale qui reprend la dialectique du regard chez Sartre. Il dit « Je suis complètement surdéterminé de l'extérieur ». Donc, c'est intéressant parce que, d'une certaine façon, il y a une forme de dénaturalisation, on va dire ça comme ça, de l'épiderme. C'est-à-dire que l'être noir, c'est pas du tout un fait objectif au sens où, indépendamment, justement, des perceptions, donc des rapports, finalement, au monde et la manière dont je suis saisie par les autres, d'une certaine façon. Mais ici, il a cette cette idée-là qui a comme une forme de d'endettement phénoménologique, c'est-à-dire qu'on m'attend, on me construit et on m'attend, c'est-à-dire on a mis sur ma peau effectivement des valeurs et on attend que je m'y conforme d'une certaine façon et que j'obéisse à cet ordre phénoménologique, donc de rester dans mon coin, de pas faire de vagues, de pas être encombrant, etc. Donc ça, c'est intéressant effectivement dans le principe analogique qu'il fait avec la question juive, avec la distinction qui vient d'être faite par Michael. Mais il y a juste peut-être une autre chose
à
ajouter, c'est que il dit que justement cette manière dont le regard va le figer, et ça va le conduire à une sursurveillance, si vous voulez, à surveiller parce qu'il se sait surveiller. Donc, ça va créer une sorte de saturation même psychique qui va se traduire corporellement. Donc ça aussi, ça fait partie, j'allais dire, de l'expérience vécue, de la corporéité encombrée, voilà, de l'être qui est ainsi pris dans le filet du regard raciste, c'est que tout à coup, il devient comme un être, j'allais dire, il ne cesse de parler de cet être un peu, comment dire, il dit que tout à coup, il y a des pseudopodes, il est rétamé dans l'espace, vous voyez, il envoie des antennes, etc. Ça, c'est une figure quand même, les pseudopodes, cette membranique, qui est assez intéressante pour comprendre la honte, voilà, quand on est constitué par le regard de l'autre. On, littéralement, on se rétame, on s'écroule.
Et là-dessus, si on est constitué par le regard de l'autre, bon, ben c'est ça que Césaire disait aussi, d'une certaine façon, revendiquons, en renversant le stigmate, tout ce que l'autre chosifie en moi, d'où ce mot de négritude, mais qui, comme pour Sartre, je ne négligerai pas les différences, on va en parler, est quand même d'abord le nom d'un construit social et d'un construit oppressant. Alors écoutons maintenant Fanon, un texte en tout cas qui va tout à fait dans ce sens, à quel point c'est le regard oppressant de l'autre qui crée la condition de noir. On écoute cet extrait de Peau noire, masque blanc, 1952.
Le noir, chez lui, au XXe siècle, ignore le moment où son infériorité passe par l'autre. Sans nul doute, il nous est arrivé de discuter du problème noir avec des amis, ou plus rarement avec des noirs américains. Ensemble, nous protestions et affirmions l'égalité des hommes devant le monde. Il y avait aussi aux Antilles ce petit hiatus qui existe entre la bécaille, la mulâtraille et la négraille. Mais nous nous contentions d'une compréhension intellectuelle de ces divergences. En fait, ça n'était pas dramatique. Et puis il nous fut donné d'affronter le regard blanc. une lourdeur inaccoutumée nous oppressa. Le véritable monde nous disputait notre part. Dans le monde blanc, l'homme de couleur rencontre des difficultés dans l'élaboration de son schéma corporel. La connaissance du corps est une activité uniquement négatrice. C'est une connaissance en troisième personne. Tout autour du corps règne une atmosphère d'incertitude certaine. J'étais tout à la fois responsable de mon corps, responsable de ma race, de mes ancêtres. Je promenais sur moi un regard objectif. Découvris ma noirceur, mes caractères ethniques, et me défoncèrent le tympan, l'anthropophagie, l'arriération mentale, le fétichisme, l'état racial, les négriers et surtout, Yabon Banania.
C'est l'Européen qui crée le noir et fait découvrir Diffanon à ce noir, sa noirceur. C'est un texte fort, hein, Michaël Provost, je vous laisse en dire un mot.
Oui, c'est un texte fort qui montre que, voilà, de la même manière que c'est l'antisémite qui fait le juif, c'est l'Européen qui fait, le blanc qui fait le noir. Et dans ce texte, en fait, on voit que, justement, la couleur de peau est investie comme un signe qui va être chargé vraiment de manifester la race. Et donc, ce regard oppressif aboutit à un effondrement, en fait, du schéma corporel. Donc, dans la lignée de Merleau-Ponty, en fait, Fanon accorde une très grande importance à la phénoménologie et
le schéma. Sartre fait partie, même si Merleau-Ponty et Sartre n'ont pas tout à fait le même point de vue, on y reviendra. Mais là, on peut dire que, à Sartre lui-même, il y a une certaine fidélité, en tout cas jusque-là.
Oui, il y a une fidélité aussi dans le fait que le regard raciste est une interpellation, donc une interpellation qui crée en fait le sujet en tant qu'autre et qui l'empêche d'arriver au monde en étant un être singulier. Donc en fait, il est empêché, comme dit Fanon, au surgissement. En fait, il prétendait au surgissement et cela s'écroule, cela est bloqué en fait par le regard raciste. Donc dans cette idée d'interpellation, oui, c'est très sartrien, c'est très merleau-pontien. Il est vraiment constitué comme autre, il est objectivé, chosifié. Et cela en fait change tous ses rapports familiers au monde, le fait de s'asseoir à un café, de mobiliser son corps de façon fluide ou mélodique. Tout cela est compliqué et s'écroule en fait du fait du regard raciste.
Alors l'autre chose que dit bien Fanon, d'abord parce qu'il ne parle jamais que des Noirs, il parle aussi de l'homme nord-africain, des Maghrébins, on en a déjà parlé hier. Et ce qu'il montre bien dans l'an 5 de la révolution algérienne en 1959, c'est que cette altérité, notamment de la femme maghrébine, est aussi, elle est méprisante, elle est négatrice et négative, comme ce sont ses mots, hein, comme pour le noir, mais il y a aussi du désir là-dedans, il y a aussi du fantasme, tout ça est très intriqué. Écoutez ce texte que je trouve vraiment intéressant, extrait de ce livre, donc l'an 5 de la Révolution algérienne, Frantz Fanon, 1959.
Dans les tramways, dans les trains, une tresse de cheveux aperçue, un morceau de front, esquisse d'un visage bouleversant, entretiennent et renforcent la conviction de l'Européen dans son attitude irrationnelle. La femme algérienne est la reine de toutes les femmes. Mais également, il y a chez l'Européen cristallisation d'une agressivité, mise en tension d'une violence en face de la femme algérienne. Dévoiler cette femme, c'est mettre en évidence la beauté, c'est mettre à nu son secret, briser sa résistance, la faire disponible pour l'aventure. Cacher le visage, c'est aussi dissimuler un secret, c'est faire exister un monde du mystère et du cachet. Confusément, l'Européen vit à un niveau fort complexe sa relation avec la femme algérienne. Volonté de mettre cette femme à portée de soi, d'en faire un éventuel objet de possession. Cette femme qui voit sans être vue frustre le colonisateur. Il n'y a pas réciprocité. Elle ne se livre pas, ne se donne pas, ne s'offre pas. Il réagit de façon agressive devant cette limitation de sa perception.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de Frantz Fanon et de son œuvre toute cette semaine. Aujourd'hui, nous nous demandons si on est noir ou si on le devient, formule un peu empruntée à l'existentialisme de Beauvoir, mais il y a un vrai lien de Fanon avec l'existentialisme et avec la phénoménologie. Je suis en compagnie de Michaël Provost et Ouria Bentouami. Nous parlons aussi de l'être, non pas seulement noir, mais de l'être maghrébin, nord-africain. Comment le coloniser est construit par le regard du colonisateur. Et dans le texte que nous venons d'entendre de Fanon, Michaël Provost, on entend un mélange d'agressivité, je cite Fanon, et de désir.
Oui, tout à fait. Donc dans ce texte, donc en 59, ici c'est vraiment le voile qui est chargé de manifester la race, hein, ce n'est plus la couleur de peau. Et en fait, la femme algérienne est construite donc comme une figure de peur, de désir, avec voilà ce trouble de l'attirance et du rejet. Et en fait, c'est un texte aussi très important puisque Fanon va montrer l'implication des femmes algériennes au sein de la lutte de décolonisation, au sein de la guerre de libération, leur implication dans la manière dont elles investissent en fait le voile qui avait été sursignifié par la politique coloniale, notamment dans des campagnes en fait visant aussi à dévoiler les femmes algériennes, à stigmatiser le patriarcat musulman. Donc il y avait, en fait, il répond aussi à toute cette propagande là menée par le pouvoir colonial qui consistait en fait à stigmatiser le voile et à chercher à dévoiler vraiment les femmes algériennes aussi avec à partir de 58 des campagnes de dévoilement qui étaient théâtralisées et organisées par l'armée coloniale à ce moment-là. Donc c'est un texte qui vient répondre en fait à tout cela et qui montre que les femmes se réapproprient le voile à l'intérieur de la lutte.
J'entends et je crois aussi que il est important de ne pas confondre les années 1950 et le rapport au voile en général, qu'il soit européen ou qu'il soit arabe, par exemple, aujourd'hui. Le FLN n'est pas exactement l'islam d'aujourd'hui dans certaines communautés où le voile s'impose. Mais j'entends parfaitement ce que vous dites, je trouve ça très important. Ouria Bentouami, je reviens à la question qui était la mienne après cette lecture. Agressivité dans la construction du colonisé et désir et fantasme, c'est ça que dit Fanon ?
Oui, il y a même une libidinisation, on pourrait dire ça comme ça, vraiment du rapport colonial comme un rapport de pouvoir et de prédation sur les corps. Et je pense que dans la construction du racisme, il y a cette dimension importante de l'érotisme, de la sexualité. C'est-à-dire que quand on construit quelqu'un, en fait, aussi des personnes, des peuples, des populations entières, comme noirs ou arabes, on va les genrer également et on va y mettre, j'allais dire, c'est un certain régime aussi de la sexualité. Et ce régime de la sexualité, il passe par, encore une fois, un régime de la visibilité. C'est-à-dire, en gros, là, c'est ce qu'on voit très bien dans ce texte, c'est-à-dire que l'Européen veut voir. Il ne supporte pas, dit-il, les limites phénoménologiques de sa perception, c'est-à-dire qu'il veut voir ce qu'il y a derrière le voile.
Et les limites l'excitent aussi.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a, mais c'est exactement ça. Et c'est pour ça, il parle des rêves. Alors ça, cette dimension-là, elle est très importante aussi dans la compréhension qu'a Fanon du racisme, comme une construction sociale également. C'est-à-dire que quand on rêve, les scènes oniriques, dit-il, sont des scènes de fantasmes, de prédation, de, pas simplement d'une femme, dit-il, par exemple, pour l'Européen homme, mais de plusieurs femmes. Il rêve, par exemple, dit-il, l'Européen, que la femme algérienne l'emmène chez elle et lui montre toutes les autres femmes. Donc, voyez, vous avez tous les fantasmes derrière du harem, de l'enfermement des femmes dans les sociétés arabo-musulmanes, etc. Donc, en réalité, ça crée quelque chose comme une pulsionnalité. Ça, c'est important. C'est important, pardon, excusez-moi. dans le rapport colonial, une pulsionnalité qui est dite scopique. Pardon, excusez-moi, j'ai un terme un peu technique, mais en fait, cette pulsion scopique, parlant, c'est le désir de voir. Mais le désir, comme vous l'avez très bien dit, c'est-à-dire, pour voir, il faut toucher, il faut s'accaparer les corps. Donc, il y a une espèce comme ça de synesthésie. Bon, encore une fois, c'est-à-dire véritablement que voir, c'est pas juste voir, hein, dans tout ce qu'on dit là sur le regard, c'est saisir, c'est toucher. Il y a une activité motrice qui est importante et tactile.
Et c'est dominé, ça c'est Sartre encore, hein, dans L'être et le néant. Le regard sur moi me néantise, je veux donc regarder le regard, je veux regarder celui qui me regarde pour à mon tour réaffirmer ma transcendance par rapport à lui. C'est vraiment le rapport très, j'ai même pas envie de dire conflictuel, mais très dominant-dominé qui se joue pour Sartre à ce moment-là de son itinéraire en 1943 dans les jeux de regard. Il n'y a pas de partage, il y a un travail de domination qu'il appelle d'ailleurs explicitement ou la position sadique ou la position masochiste. Il emploie ces mots alors que par ailleurs il ne s'intéresse pas du tout au vocabulaire psychologique et aux réalités psychiques d'un autre côté, mais il les emploie, on voit en quel sens. Ouria Bentouami, c'est ça qui se joue dans le désir aussi. C'est un désir
avec de la domination. Oui, tout à fait, c'est un aspect voyeuriste. Il y a vraiment cette dimension-là, voyeuriste, c'est-à-dire, bah, voyez la scène de Sartre dans l'être et le néant, justement, sur le fameux trou de serrure, voir par le trou de la serrure, en fait, voir sans être vu d'une certaine manière, c'est aussi dans la chambre à coucher, en l'occurrence des Algériennes, c'est-à-dire, véritablement ici, il fait souvent ça, si vous voulez, Fanon, de réhistoriciser ces scènes phénoménologiques qui correspondent à la fois qui correspondent aussi en termes psychanalytiques à des désirs profonds. Et donc, il rejoue d'une certaine façon la scène du garçon de café, par exemple, quand il ouvre Peau Noire, Masque Blanc, avec le débarqué martiniquais qui commande au garçon de café, donc un verre de bière. Et là, d'une certaine façon aussi, ce qui se rejoue, c'est cette manière de forcer aussi, d'une certaine façon, le regard. C'est-à-dire aussi chercher chez les femmes algériennes à croiser le regard, la rencontre, forcer la rencontre sexuelle, bien sûr. Et Fanon dit qu'en réalité, les femmes algériennes, donc non seulement effectivement, elles gardent leur voile, donc comme une forme ici de refus phénoménologique à ce rapport-là colonial, donc au regard qui force, et elles fuient le regard. Elles ont tout le temps une attitude comme ça d'esquive, de fuite.
Voilà, alors je voudrais maintenant, pour la dernière partie de cette émission, qu'on comprenne qu'en même temps, Fanon, s'il est très sartrien dans beaucoup de textes, nous venons de le montrer, de l'entendre, il critique aussi Sartre, et notamment un forçage par Sartre de la négritude de Césaire. La négritude qui est un construit historique, qui ne renvoie pas, pour Césaire, il est vrai, à une identité substantielle. Donc là, il y a une vraie convergence avec Sartre. Mais Sartre, il pousse la chose tellement loin qu'il écrit dans Orphée Noir, la préface à un livre de Senghor, l'anthologie de la nouvelle poésie nègre et malgache de langue française, il écrit, Sartre, je cite, « La négritude est pour se détruire, elle est passage et non aboutissement, moyen et non fin dernière. » Or, dans le livre de 1952, Peau noire, masque blanc, Fanon dit que là, il reçoit un coup, comme si Sartre allait trop loin. Il trouve que en réalité, il ne comprend pas qu'il y a quand même un peu quoi de l'identité, même quand on aura enlevé le regard du colonisateur. C'est-à-dire qu'après tout ce qu'il a déjà dit, j'ai du mal à voir pourquoi Fanon, Michael Provost, trouve quand même qu'il ne faut pas aller trop loin, que ce n'est pas à détruire, mais quoi, à réélaborer alors contre le colonisateur.
En fait, dans cette préface, Sartre fait de la négritude donc un moment transitoire qui est voué à être dépassé dans une forme de dialectique hegelienne et qui est voué à se résoudre à l'intérieur de ce qu'il appelle la classe prolétarienne objective exacte. Donc finalement, c'est un moment transitoire qui est voué à être dépassé par le socialisme. Et donc il a une position marxiste assez classique à ce moment-là. Que Fanon critique parce qu'il a quelque chose d'assez paternaliste en fait dans ce ton-là, dans l'idée que la négritude de toute façon passera et sera et est vouée à se résoudre en fait à l'intérieur d'une lutte prolétarienne plus large. Donc Fanon y voit une forme de paternalisme, de renouer aussi avec un universalisme qui serait plutôt abstrait, qui serait qui serait blanc. Et donc, il prend un petit peu sa distance à l'égard de Sartre. Mais ça ne veut pas dire que voilà qu'il endosse totalement en fait toutes les dimensions de la négritude. Il y a là encore une ambivalence. À la fois, il partage avec Sartre le constat que la négritude non pas doit être dépassée, mais en tout cas qu'elle ne saurait être suffisante en elle-même.
Oui, j'entends, mais Ouria Bentouami, continuons cette conversation. Pour Césaire aussi, la négritude, nous l'avons dit au début, doit être dépassée. C'est le nom de l'oppression. Il faut viser le dépassement de l'oppression. Donc, on ne peut pas vraiment reprocher à Sartre d'avoir trahi Césaire. Peut-être que Fanon, là, commence à prendre ses distances par rapport aux deux, Césaire et Sartre. Qu'en dites-vous ?
Alors, je pense qu'il y a aussi une dimension de critique du sujet de l'énonciation. C'est-à-dire, qui dit que c'est dépassé? Qui déclare que c'est dépassé?
Ça, oui.
Et je pense que là, ce qui vient d'être dit, à mon avis, est tout à fait important. C'est-à-dire que la question de dire simplement c'est un moyen, c'est une étape, c'est-à-dire de réinscrire finalement la négritude dans un schéma déjà bien établi de l'émancipation dont on a tous et toutes hérité et qui viendrait effectivement de la dialectique marxiste. Ici, il y a Fanon dit, attendez, d'une certaine manière, il faut justement pouvoir faire cette expérience-là, partir précisément du sujet du sujet minorisé, etc., et qui a une autre perspective, un autre rapport, hein, c'est sous un autre rapport, c'est vraiment ça, une autre perspective épistémique, donc de l'énonciation, de dire là, oui, nous serons libérés à ce moment-là. Mais en rien, ce dépassement rapide, finalement, cet hegelianisme, excusez-moi, précipité, d'ailleurs, il fait un jeu de mots là-dessus, oui. Fanon, à propos de Sartre, il dit c'est hegelien né.
Alors que Sartre prétend ne pas être hegelien là, donc, puisque c'est, il n'y a pas de synthèse, c'est négatif où on transcende, où on est transcendé, et en fait, il le traite d'hegelien. En disant que
il veut
que tout se dépasse et qu'on ait des sujets universels abstraits à la fin, ce qui n'a d'ailleurs pas du Hegel, mais bon, je vous écoute.
Mais je pense que du coup, c'est vraiment cette idée-là de réhistoriciser encore une fois les conditions du dépassement, comme il a été dit, effectivement, de simplement ce qui pourrait apparaître comme purement culturel, une réaffirmation de soi. Et de réhistoriciser, ça veut dire on ne peut pas alors appliquer de manière anhistorique des schémas d'émancipation.
Donc, Ouria Bentouami, si je comprends bien, il y a beaucoup de choses à dépasser pour le dominer, pour le coloniser, des choses qui ont été construites par le dominant, par le colonisateur. Il serait une erreur de la part du colonisé de ruer dans le... de foncer dans ces identités construites, d'en rajouter, quoi. Oui, les traditions, comme si ça allait dans... Il faut démonter le regard du colonisateur. Il n'empêche que c'est à lui de décider comment il s'émancipe, à quel prix, et s'il veut un peu utiliser les traditions, s'il veut élaborer son identité. C'est lui qui voit, c'est sûrement pas un Sartre qui va décider quand ça s'arrête, hein, la domination, c'est ça ?
Oui, c'est ça, parce que c'est un exercice critique, en fait, de se libérer. Et cet exercice critique, eh bien, on ne peut pas tout simplement l'abandonner à d'autres que soi. Et cette dimension-là, quand même, de la liberté comme une épreuve de soi, comme une impatience qui doit être exercée par chacun, c'est une tâche, hein, véritablement. C'est une tâche, c'est ce que l'humain en moi réclame, c'est précisément d'être attentif, et c'est une façon d'exercer une critique, d'être attentif à ce que l'on fait de moi. Et de ceux à qui je suis associée, évidemment, hein, dans le cadre notamment raciste et sexiste. Donc il faut pouvoir retrouver justement quelque chose comme une singularité critique, au-delà précisément du racisme qui procède par des êtres génériques. On est toujours amené à ses ancêtres, donc on est censé faire selon une certaine culture, etc. Donc finalement, je dirais que Fanon, lui, dans son exercice critique, il fait une double critique. L'universalisme abstrait, qui parle de nulle part, disons d'une certaine façon, et pour tout le monde. Et puis, au contraire, des perspectives très culturalistes, comme vous venez de dire, ou identitaires, hein, c'est-à-dire qu'ils ne trouveraient aussi de solution que dans le passé, que dans ce qui a déjà été dit, dans les ancêtres, etc., sans même avoir un minimum de rapport historique à cette culture, c'est-à-dire d'évolution de cette culture aussi, en fonction de la transformation des rapports sociaux. Donc moi je dirais que Fanon, c'est vraiment celui aussi qui dit que voilà, être révolutionnaire d'une certaine façon, c'est prendre cette tâche qui est une tâche vraiment une tâche collective évidemment, mais aussi singulière, et de ne pas renoncer à la singularité de ce questionnement.
Je vous laisse ce dernier mot, Michaël Provost. Il doit être court et j'en suis tout à fait navrée, mais je vous écoute quand même si vous voulez ajouter une dernière chose.
Oui, il y a cette dimension d'invention subjective, de création de soi, qui s'ancre aussi à l'intérieur d'une lutte collective, hein, comme disait bien Ruya Bentouami. Et c'est en cela que l'analyse historique aussi des rapports sociaux se lie chez lui à une pensée existentielle et à une importance donnée à la créativité, à l'inventivité, à introduire un saut dans l'existence, comme il l'écrit.
Moi lever les matins moi qu'à prendre bout de côte là, moi qu'à marrer les mains pour ma haine fait très moins, il garde des animaux moins les 6 heures moins fini, moi qu'à prendre grand oua, moi qu'à lever tes mains pour me demander courage à la divinité. Oh. Oui, bébé, moi, manière pour moi pas ça senti. La misère, moi, oh, la misère, moi. Bon Dieu, fais-moi pour ça. Il bat moi un bras brûlé. Il bat moi en pile sang et m'en bien résistant après les exploitants. Oh, m'en pas belle ni pas belle, compagne-moi. Nous pas faites pour le luxe, pas même pour le calice. Nous ni droit être admis d'après ça, moi qu'à oh, oh. Et moi qu'attend, et ça l'histoire qui t'est banaux. Dans les archives, oh, oh, dans les archives. Non, nous savons qu'il est, qu'il n'est pas différent. Bon Dieu, fais-nous pour ça, il gaba nous.
Vous entendez Eugène Monin, surnommé le Nègre Debout, figure musicale martiniquaise, à l'aura majeure, grand ami d'Aimé Césaire et d'Édouard Glissant. Cette chanson, Bois brûlé, est sortie en 1973. Elle évoque la peau noire brûlée, la peau décolonisée, pleine de sang mais brûlée par la domination esclavagiste et coloniale.
C'était donc une émission sur Frantz Fanon, deuxième épisode de notre série consacrée à son œuvre. Merci Michael Provost et Ouria Bentouami. Les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il parle de la proportion et de la disproportion. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi la raison est-elle un équilibre ? On se moque souvent d'un certain usage de mots liés à la raison qui nous semble disproportionné parce que justement il est trop modeste, parce qu'il relève de notre expérience ordinaire, de la vie morale, parce qu'il relève de notre apprentissage de l'équilibre spontané entre les humains. C'est comme nous, quand nous disons à quelqu'un « Écoute, sois raisonnable, accepte une limite à ton désir, une limite à tes passions, une limite à ta compétition avec les autres. Pour vivre avec les autres, il faudrait être raisonnable, il faudrait pouvoir se laisser raisonner, comprendre qu'on ne peut pas aller trop loin, comprendre que la disproportion, l'excès et parfois aussi le défaut d'ailleurs est un danger entre les humains, comme si le comble de la raison c'était justement d'accepter ces petites limites morales entre les humains. Alors on est parfois excédé, énervé par ce côté raisonnable de la sagesse humaine, par ce côté qui parfois en appelle à la sagesse antique la plus profonde, qui disait tout simplement rien de trop, voilà en trois mots. Toute une sagesse, rien de trop, et ça suffit pour être heureux. La satisfaction, le fait d'être limité, mesuré, raisonnable, et parfois ce côté raisonnable nous exaspère. Nous en demandons plus, nous voulons des vérités, des vertus, des valeurs infinies. Nous avons le sentiment que le fait d'être raisonnable ne suffit jamais, que au fond on nous en demande trop, que même cette raisonnabilité est une forme de violence. Et dans le sillage de la critique de la raison de Heidegger, beaucoup ont critiqué justement l'ordre d'être raisonnable comme une violence qui nous est infligée par une raison technique, par un pouvoir de domination qui nous impose une limite et qui bride ainsi notre désir infini de justice. La raison est justement hantée aussi par des spectres très profonds de l'erreur, et peut-être que ce côté raisonnable de la morale ordinaire doit être fondé sur une critique fondamentale des illusions de notre raison. C'est ce que faisait par exemple Emmanuel Kant dans la critique de la raison pure. Il montrait dans la raison une faculté extraordinaire de connaissance, mais qui doit être limitée par l'expérience sensible, au risque sinon de tomber dans les pays de l'illusion, du délire et du danger de l'erreur fondamentale des visionnaires, disait-il. Ainsi, la critique de la raison pure est-elle divisée en deux parties, la sphère de la connaissance légitime et la sphère de l'illusion absolue. Dans la connaissance légitime, on se réfère à l'expérience sensible. On peut montrer que, par exemple, à quelle température l'eau va bouillir, on va remonter à une cause de la chaleur de cette eau-ci dans cette casserole-là, mais remonter à l'origine du monde, dit Kant, c'est tomber dans l'illusion d'une raison absolue qui ne peut plus trouver de critères dans l'expérience, c'est tomber dans le pays de l'erreur, c'est quitter le pays de la vérité pour celui de l'erreur. La raison est un équilibre qui ne cherche pas à s'imposer aux autres, qui ne cherche pas la disproportion de la violence, mais qui cherche pour des raisons de fondement, pour des raisons a priori, comme disait Kant de la critique de la raison pure, qui cherche les conditions d'une coexistence possible. Oui, il n'y a pas seulement la critique de la raison pure ou la critique de la raison pratique et toutes les autres que l'on a faites, mais la critique du déraisonnable en général qui est la source de toutes les violences entre les humains.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Riad Kera avec à la technique d'Alia. Merci aux équipes techniques de Ici Occitanie qui ont permis la liaison avec Ouria Bentouami. Cette émission a été préparée en particulier par Chaïma Giboire et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Axel Dubois, Armance Bourquin, Carla Michel et Nassim El-Kabli. Vous êtes bien sur France Culture. Vive la curiosité!